7h25 sur France Culture et comme tous les vendredis, c'est l'heure du reportage de la rédaction avec le hashtag, le rendez-vous interactif et numérique. Avec vous Audrey Dumain, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Et dans le cadre de la 12e journée internationale des maladies rares, les associations en France et ailleurs dans le monde se sont rassemblées hier jeudi pour sensibiliser le public à ces maladies. Une maladie est dite rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2000, mais contrairement aux idées reçues, cela concerne plus de 3 millions de personnes en France. Comment ces patients vivent-ils, mais aussi comment leurs proches vivent-ils avec ces maladies rares? C'est la question que vous avez posée sur les réseaux sociaux cette semaine, Audrey Dumain.
Et évidemment, les réponses sont multiples. Il faut savoir qu'il existe plus de 7000 maladies rares aujourd'hui. La plupart ont des caractéristiques qui changent selon chaque personne. Elles sont donc très compliquées à diagnostiquer. Un patient sur 5 attend plus de 6 ans avant de mettre un nom sur la maladie. D'autres n'ont toujours pas de réponse, comme Adonis, 15 ans. Il souffre de graves troubles de la coordination et du langage. Cela fait pourtant 2 ans que ses parents font tout pour comprendre de quoi il souffre.
C'est compliqué d'être en errance de diagnostic parce que on a du mal à se projeter. Et puis maintenant, Adonis, il va avoir 15 ans et lui-même a du mal à se projeter parce que même lui-même se pose la question, est-ce que moi je peux la transmettre la maladie ?
Alors, on peut se demander pourquoi un diagnostic prend autant de temps. Dans le cas d'Adonis, son premier pédiatre en Bretagne assurait que le petit prenait juste son temps. Certains médecins généralistes, les premiers que nous consultons, n'auraient donc pas assez la culture du doute. Ensuite, parce qu'obtenir un rendez-vous avec un spécialiste comme un neuropédiatre prend des mois. Et quand le diagnostic tombe enfin pour certains, ces experts n'ont bien souvent jamais la réponse à la question. Comment guérir ? 95% des malades n'ont aucun traitement curatif. Comme Jonas, il est étudiant à Sciences Po et souffre d'une myopathie des ceintures, une maladie musculaire rare qui touche ses jambes en premier.
C'est une maladie dégénérative, musculaire, très progressive, très lente. À partir de mes 16-17 ans, ça a commencé à se dégrader. Courir, je peux plus. Je peux plus pratiquer de sport, à part la natation. Des choses que vous faites assez naturellement, c'est-à-dire monter des escaliers. C'est devenu de plus en plus compliqué, on va dire. Mon seul remède, c'est la kiné et l'entretien de mon corps avec la piscine, avant de guérir complètement. Ce serait bien que le développement de la maladie s'arrête pour justement être stabilisé. Je ne sais pas où j'en serai dans 10 ans, au niveau de ma vie personnelle, au niveau de ma vie professionnelle. Ouais, c'est un peu l'inconnu, ouais. Je pense pas avoir mérité ça. J'aimerais bien être soigné, quoi. Pour avoir une vie normale, pour pouvoir élever mes enfants normalement. Voilà, aujourd'hui, des choses un peu bêtes, mais si j'ai un enfant, bah, je pourrais peut-être pas le porter dans mes bras, quoi. Ça pèse un peu.
La maladie de Jonas est presque invisible pour le moment. Il tient encore sur ses 2 jambes, ce qui l'oblige à toujours se justifier auprès de ceux qui doutent de son handicap. Ayette, elle, n'a plus d'autre choix que de se déplacer en fauteuil roulant. Elle souffre de la même myopathie et pourtant cette sportive de 27 ans a décidé de ne pas voir sa maladie comme un obstacle. Elle continue de vivre à fond sa passion, le parachutisme.
L'idée en fait c'est de faire des figures de voltige à 4000 mètres. Ma caméraman se met à l'extérieur de l'avion, j'ai les pieds dans le vide, mon moniteur est dans mon dos. Et là on lance le top départ, 1, 2 et 3, on se jette. C'est un sport loisir, sport passion, on va dire ça comme ça. Alors la maladie c'est un obstacle mais qui reste surmontable. Bah, quand j'ai commencé le parachutisme, on va prendre un exemple qui est assez concret, j'étais debout. Au fil des années la maladie a avancé et j'ai eu en fait mon fauteuil roulant fin 2014, début 2015. Et au niveau du parachutisme, j'avais un objectif, c'était de pouvoir viser un podium. Et avec Daniel et Marie, on a fait champion, donc cette année-là. Et donc en fait, j'ai eu un déclic et je me suis dit, voilà, certes, dans la vie de tous les jours, je suis limitée, mais dans le ciel, je suis illimitée. Ça m'a donné confiance en moi. Voilà, la maladie, elle s'installe de plus en plus, mais pas dans ma tête.
L'interview complète d'Ayette est à retrouver en une de notre site. Sa passion lui aura permis en tout cas de voir sa maladie différemment et de ne pas s'isoler face à sa pathologie. Pourtant, c'est bien le risque des maladies rares. Entre les rendez-vous chez les différents spécialistes, les papiers pour obtenir des aides, il faut prouver constamment son handicap, nous explique Stéphane sur Facebook. Tout cela prend du temps. Cindy a dû quitter son travail pour s'occuper de son fils Enzo, atteint d'une maladie rare neuromusculaire depuis la naissance.
J'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que sincèrement, je sais que mon employeur ne supporterait pas que je pose tout le temps à droite, à gauche, des jours pour l'accompagner, quoi. C'est devenu un rêve de retourner au travail. Pouvoir voir du monde parce qu'on ne voit plus personne, hein. La maladie fait souvent peur. Donc, moi, je suis, j'ai mes parents qui m'épaulent tous les jours, mais sinon, c'est compliqué, il n'y a plus de vie sociale, quoi.
Cindy qui a fait d'autres rencontres sur les réseaux sociaux. Des parents dont les enfants souffrent de la même maladie sont devenus des amis. Hortense, 20 ans, nous livre qu'elle a créé sa propre page Facebook pour raconter son quotidien avec ses 3 pathologies. Ça m'a donné la force et le courage de me battre depuis 1 an et demi, conclut-elle.
Merci Audrey Dumas, on retrouve votre hashtag sur le site de France Culture et vous nous avez également signalé l'importance des associations comme la FM Téléthon pour créer du lien social. On retrouve voilà tous ces témoignages sur le site de votre radio préférée France Culture. Dans quelques instants, les pro-européens se seraient-ils laissés gagner par la lassitude face à la montée du populisme? C'est pour redonner l'envie d'Europe que Bernard-Henri Lévy mouille la chemise avec un spectacle qu'il donne sur les scènes de 20 villes européenne dans une tournée qui va débuter le 5 mars. Dans quelques minutes, Bernard-Henri Lévy sera notre invité. En attendant, il est 7h31 et je m'excuse pour le retard.